Chapitre 32. La colombe, le crocodile et le requin. 18h39, hôtel de Buurtehude. Au bout du couloir, la lourde porte en chêne du bureau d'Olivier Levasseur était ouverte. Maline, surprise, s'avança. Olivier se tenait debout, au fond de l'appartement, en grande conversation avec un homme que Maline reconnut tout de suite. Nicolas Neufville. Qu'est-ce qu'il fichait là ? Maline essaya de dépasser sa colère. Il était un homme d'affaires important sur la scène de Rouen. Cela n'avait rien d'étonnant qu'il soit là, après tout. Olivier Levasseur remarqua Maline dans le vestibule. Il lui fit signe d'entrer et de s'installer dans le couloir, tout en repoussant derrière lui la porte du salon. Douche froide. La tanière du fauve redevenait un banal bureau, avec sa sinistre salle d'attente. Maline soupira. Les retrouvailles romantiques qu'elle avait imaginées en montant l'escalier de pierre tombaient à plat, par la faute de cette crapule de Nicolas Neufville par-dessus le marché. Maline prit son mal en patience. Elle commença à feuilleter des magazines de voiliers posés sur la table basse. Ça ne la passionna pas. Elle découvrit même au milieu des revues un petit livre de poche, « Le grand rêve flibustier » de Daniel Defoe. La présence de l'ouvrage le plus célèbre de piraterie lui apparut un peu incongrue chez le chargé de relations presse de l'Armada. Elle le feuilleta un peu, mais, une fois encore, n'eut pas le courage de se concentrer sur la lecture. Déjà 10 minutes. Énervée, elle sortit son téléphone portable et consulta ses messages. Son père lui avait à nouveau laissé un mot, toujours la même litanie. Quand allait-elle passer? Que voulait-elle pour son anniversaire? Les bourguignons de passage? Maline lui répondit en 2 phrases évasives qu'elle essaierait de passer bientôt, de l'emmener à la parade de la Seine le 14 juillet. 13 minutes. La porte s'ouvrit enfin. Nicolas Neufville sortit du salon, radieux, et tendit une main énergique à Maline. « Décidément, on ne se quitte plus, mademoiselle Abruzzi. Désolé de ne pouvoir passer plus de temps avec vous, il faut que je me sauve. » Il se sauva, effectivement. Mais Maline n'aima pas du tout le sourire rempli de sous-entendus qui s'afficha sur le visage de l'homme d'affaires lorsqu'il referma la porte de chêne de l'appartement. Il la regardait comme une pintade qui allait passer à la casserole. Elle se retourna vers Olivier. Le regard vert électrique du réunionnais l'hypnotisa. L'image qui lui vint immédiatement fut qu'elle n'avait rien, vraiment rien, contre la casserole, si ce type acceptait de la déplumer. Mais pas tout de suite. « Qu'est-ce qu'il voulait ?» demanda Maline avec une agressivité forcée. « Je crains que ça ne vous regarde pas, mademoiselle Abruzzi. » Maline remarqua que Levasseur tenait à la main des dossiers. Elle lut le nom d'un logo sur une pochette glacée. Sirfan S.A.R.L. Elle n'en avait jamais entendu parler, mais son regard se fit plus inquisiteur encore. Olivier Levasseur adopta une attitude gênée et se sentit obligé de lâcher quelques informations. Vous êtes incorrigible. Je ne devrais rien vous dire. Sachez juste que le commissariat de police m'a demandé ce matin un certain nombre de renseignements. Sur Nicolas Neufville ? Sur Nicolas Neufville, entre autres. Cela rassura Maline. Un peu. La journaliste suivit Levasseur dans le salon. Il avait adopté cette fois-ci un style décontracté. Un jean et un t-shirt qui moulaient de façon très sexy son torse puissant. Une nouvelle fois, elle se fit la réflexion que cet homme l'attirait vraiment. Qu'ils étaient 2 adultes consentants, dans la suite somptueuse d'un grand hôtel particulier. Qu'elle n'avait pas fait l'amour depuis au moins 6 mois. Qu'elle sentait monter en elle un épouvantable désir d'ouvrir la braguette du pantalon de ce bellâtre. Qu'elle devait se reprendre. Qu'elle devait sortir ses appâts, planter son hameçon, tirer. Elle verrait bien ensuite la taille de la prise. Olivier lui proposa avec galanterie un apéritif. Maline choisit comme Olivier un rhum blanc. La journaliste reprit sa place dans le canapé, Olivier la sienne en face d'elle. Elle pencha en avant sa robe échancrée, comme pour lui permettre de mesurer la profondeur de son décolleté. Il ne détourna pas le regard, mais Maline savait que pour attraper un tel poisson, il lui fallait sortir des appâts d'un autre calibre. Olivier Levasseur entama la conversation avec une politesse professionnelle. Il resservit à Maline les félicitations pour son coup de stylo magique d'hier soir. Jamais, même pour ses plus brillants articles, on ne l'avait autant félicité pour un trait de plume. Il avait l'air ravi que le meurtre soit résolu, que tout rentre dans l'ordre, que la fiesta de l'armada puisse recommencer comme avant, tranquillement. Maline le coupa. Elle avait décidé de jouer franc jeu, de tout mettre sur la table, tout ce qu'elle avait découvert cet après-midi, tout jusqu'à la fuite du motard. Pourquoi ? Pourquoi tout révéler à cet inconnu, Olivier Levasseur ? Parce qu'il pouvait lui être utile pour découvrir l'identité des marins impliqués ? Oui, sans doute. Parce qu'inexplicablement, elle lui faisait confiance ? Oui, aussi. Mais le motif principal était stratégique. Elle voulait attirer son attention. C'était aussi simple que cela. En partageant avec lui ses incroyables découvertes, elle créait alors immanquablement une complicité entre elle et lui. Son meilleur appât, le mystère, ses mystères. Pendant de longues minutes, Maline raconta tout. Levasseur écouta avec une attitude de mi-passionnée, mi-effrayée. À la fin du récit, Olivier Levasseur se leva incrédule. Il demanda à voir la feuille arrachée du livre d'or. Maline lui montra et il dut se rendre à l'évidence. Il avait un air de petit garçon embêté que Maline adora. On sentait que cette affaire l'intriguait, mais surtout qu'elle le mettait mal à l'aise. Il était le chargé des relations presse de l'armada. Il naviguait avec élégance dans le politiquement correct. Ces histoires de fous, il savait qu'un jour ou l'autre, c'est lui qui se retrouverait en première ligne, en conférence de presse, devant une meute de journalistes, pour les expliquer. Comme Maline, il n'avait pas très envie d'aller voir la police. Pas tout de suite, du moins. Si la police tenait un coupable, pourquoi aller compliquer les choses ? Perturber l'ordre tranquille de l'armada, à 2 jours de la parade en scène. Toute cette histoire de code entre marins n'avait peut-être rien à voir avec le meurtre, après tout. Maline le constatait, le bel Olivier Levasseur n'aimait pas les vagues. Du moins, pas celles qui pouvaient remettre en cause son travail de communicant de haut vol. Maline était d'autant plus fière de l'avoir coincé. En lui révélant tout, elle faisait de lui son complice. Il ne pouvait plus feindre l'ignorance, la neutralité, elle l'avait mouillé. Et rien que pour cela, au fond de lui-même, Olivier Levasseur devait la maudire. Tant mieux, Maline préférait de loin le statut de petite garce le menant par le bout du nez à celui de pintade prête à rôtir. Maline se décida à pousser l'avantage plus loin en prenant les commandes de l'enquête. Je suis certaine que l'identité des marins qui se cachent derrière ces tatouages n'est pas très difficile à trouver, Olivier. Vous avez toutes les informations possibles sur les équipages. Si on s'y met à deux... Vous avez le temps ? Première salve. Toute la nuit. Olivier Levasseur ne releva pas, perdu dans ses pensées inquiètes. La perspective d'un nouveau scandale sur l'armada semblait même avoir fait chuter sa libido à un niveau inquiétant pour le reste de la soirée. Maline commençait à douter de sa stratégie. Levasseur alla chercher un ordinateur portable et le posa sur ses genoux. Tout le bureau était en espace Wi-Fi, bien entendu. Maline vint se coller à lui. Deuxième salve. Elle sentit avec délice fondre sur elle son parfum ambré. Levasseur, concentré sur son écran, ne sembla même pas remarquer leur intimité nouvelle. Il faisait défiler les caractéristiques des voiliers de l'armada. Année de construction, propriétaire, largeur, tirant d'eau, surface de voilure, vitesse de déplacement, port de construction, port d'attache. Ils prirent le temps de tout détailler. Rien ne leur sauta à l'esprit. Ils firent ensuite défiler l'immense banque de photographies d'Olivier Levasseur. Des centaines de clichés splendides, des figures de proue, des sculptures de bois, des écussons brodés. Ils se régalèrent d'un diaporama de toutes sortes de croix, d'encre, de sirènes hollandaises, de dragons indonésiens, mais rien de ce qu'ils cherchaient. « Et les marins ?» demanda Maline sans renoncer. « Vous avez une liste des marins ?»« Oui, » soupira Olivier. « Je l'ai récupéré auprès du service des douanes et des ambassades. » Mais il y en a près de 10 000. Maline fit la grimace. Commençons au moins par ceux du côté moc. Les noms défilèrent, avec des dates de naissance, les lieux de naissance, les nationalités. Rien, rien n'évoquait les quatre animaux. La colombe, le tigre, le crocodile, le requin. Il fixait l'écran depuis plus d'une demi-heure sans avoir avancé d'un pouce. Maline en avait des crampes. Elle perdait patience. Il lui fallait prendre les choses en main. Soit renverser cet Apollon dans le canapé et lui déchirer son t-shirt avec les dents, soit trouver une nouvelle idée pour faire avancer l'enquête. Elle arracha soudain l'ordinateur portable des genoux de Levasseur, le referma et le posa par terre. Olivier Levasseur, surpris, allait protester. « On n'arrivera à rien comme cela, Olivier. Il faut prendre le problème à l'envers. Il faut partir des tatouages. » Maline changea brusquement de position. D'un mouvement souple, elle se mit à genoux sur le canapé, perpendiculairement à Olivier Levasseur. Elle se trouvait désormais plus haute que lui. Il se retourna vers elle. Cette fois-ci, il avait vraiment son décolleté dans le nez. Maline le savait généreux, légèrement bronzé en ce début juillet, joliment mis en valeur dans un mini soutien-gorge en dentelle blanche qu'Olivier ne pouvait pas éviter de remarquer. La position qu'elle avait adoptée, à genoux sur le canapé, avait impudiquement fait remonter sa robe le long de ses cuisses, ne cachant plus que sa petite culotte. Et encore. Avec un peu d'effort, le chargé de communication pouvait vérifier que les sous-vêtements de Maline étaient parfaitement coordonnés. Maline posa sa main sur la cuisse du réunionnais, espérant éventuellement qu'il en fasse de même avec la sienne. Troisième salve. Olivier Levasseur ne broncha pas, mais la gratifia d'un regard d'émeraude qui donna envie à Maline de l'embrasser à pleine bouche. Ce type était-il seulement conscient de son pouvoir de séduction ? Maline se reconcentra difficilement sur l'enquête. « On va s'y prendre autrement, Olivier. C'est bien vrai que vous parlez une dizaine de langues ?» Olivier Levasseur confirma d'un sourire clownésien. « Ok, partons de l'hypothèse que ces marins sont de nationalités différentes. Essayons de traduire le nom de ces animaux tatoués dans les différentes langues des principaux pays présents sur l'armada. On verra bien ce que ça donne. » Pendant plus d'un quart d'heure, Levasseur essaya de traduire les mots « colombe »,« requin »,« crocodile »,« tigre » dans différentes langues usuelles. Cela ne donna rien. Cependant, Maline ne s'avouait pas vaincue. Elle posa une seconde main sur les cuisses musclées de Levasseur, installant presque ses genoux nus sur ses jambes. Quatrième salve. « Ok, on continue. Je suis certaine qu'on est sur la bonne voie. On va essayer en traduisant des associations d'idées. Commençons par la colombe, c'est sans doute le plus simple. À quoi peut bien faire penser la colombe ? L'amour ? La paix ? Corrigea Levasseur avec un sourire entendu. Maline s'approcha encore et positionna son sein à quelques centimètres de la bouche du belâtre. « J'aurais préféré que vous me traduisiez le mot « amour » dans toutes les langues, mais allons-y pour la paix. » Olivier Levasseur ne perdit rien du spectacle, mais n'esquissa pas le moindre geste et commença une jolie récitation. « Peace, freedom, passe, pace, vrede, mir. » « Mir ?» Leurs regards se croisèrent, électriques, complices. « Mir » signifiait « paix » en russe. Mais le mir était également le plus grand trois-mâts de l'armada. Ils avaient trouvé. Un des quatre marins qu'ils recherchaient était matelot sur le voilier russe, sans aucun doute. Ils avaient identifié un second marin. « Vous êtes un génie, Olivier !» Maline se pencha brusquement en avant, comme une sprinteuse au coup de feu, et posa un baiser sur la joue du réunionnais. Peut-être même aussi sur un coin de lèvres. Maline ne laissa pas le temps à Levasseur de réagir. Elle se releva vivement. Elle ne pouvait pas tenir beaucoup plus longtemps dans sa position impudique. Elle sentait monter des crampes dans ses cuisses. Olivier se leva à son tour. Tout en tournant dans l'appartement, ils continuèrent un long moment à jouer au jeu des associations d'idées, sans rien trouver de plus. Maline cherchait une nouvelle piste, mais plus rien ne venait. « Vous avez des livres ici aussi ?» fit-elle en désespoir de cause. « Des dizaines, sur la marine, la voile, les ports du monde. Vous voulez vraiment vous attaquer à ça ?» Olivier Levasseur s'aperçut seulement à ce moment-là qu'un bouton de la robe de Maline venait de sauter. Impossible désormais de rater la dentelle du charmant soutien-gorge. « J'ai toute la nuit. Cinquième salve. Avec autorité, Maline attrapa une pile de livres et s'installa à la table du salon, semblant se désintéresser momentanément du chargé de communication. Surpris par l'attitude studieuse de Maline, Olivier Levasseur se sentit contraint de faire de même. À peine un quart d'heure plus tard, Maline décréta que lire sur la table du salon était véritablement trop inconfortable. Olivier Levasseur vit, avec des yeux éberlués, la jeune journaliste prendre sa pile de livres sous le bras et se diriger vers sa chambre. « Je ne peux pas lire plus d'un quart d'heure autre part que dans un lit », lança Maline du sourire le plus coquin qu'elle put. Elle entra dans la tanière. « Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que votre garçonnière est mieux rangée que mon studio. » Elle lança les livres sur le lit. Olivier Levasseur s'avança de quelques pas vers elle, souple, rassé, élégant. « Je vous appelle dès que j'ai trouvé quelque chose », fit la diablesse en refermant derrière elle la porte de la chambre. Sixième salve. Un quart d'heure plus tard, Maline piquait du nez sur son livre, « Les plus grands ports du monde ». Elle se serait bien enfouie nue sous les draps de soie du lit d'Olivier Levasseur. Elle regarda la porte de la chambre qui la séparait du beau réunionnais et qui restait toujours désespérément fermée. Qu'est-ce qu'il fichait? Il n'avait rien compris? Elle ne lui plaisait pas? Dans ce cas, il n'avait qu'à le dire franchement. Il était timide? Tu parles. Et le coup de la serviette de bain hier? Il voulait jouer à plus malin qu'elle, faire monter le désir encore. Oui, bien entendu. Maline bâilla. D'accord pour faire monter le désir, mais il fallait qu'il se dépêche. Elle tourna une nouvelle page sans conviction. Surabaya, deuxième ville d'Indonésie, 3 millions d'habitants, un des principaux ports d'Asie du Sud-Est. Une reproduction du blason bleu et or de la ville attira soudain l'attention de Maline. Autour d'une colonne de pierre, une sorte de crocodile semblait combattre un requin. Brusquement réveillée, Maline détailla l'explication. En javanais, Suro voulait dire requin et Boya, crocodile. Requin-crocodile, l'origine du nom Surabaya. Maline fit immédiatement le rapprochement. L'un des trois mâts les plus populaires de l'armada était le Dewaruchi, un navire école indonésien dont le port d'attache était Surabaya. Elle se fit la réflexion amusée qu'ils auraient gagné du temps si son beau polyglotte avait su parler javanais. Nul n'est parfait. Elle continua sa lecture. La légende racontait que ces deux animaux s'étaient battus pour devenir l'animal le plus puissant de la région. Le crocodile et le requin ne représentaient donc pas deux marins différents, mais un seul. Une seule et même main sur le livre d'or de l'église de Villequier avait signé de ces deux animaux. La confrérie n'était en réalité composée que de quatre marins. Aquilero, l'aigle, un marin du Mire, la colombe, un marin du Dewaruchi, à la fois crocodile et requin. Restait le tigre. Il s'agissait sans doute du géant blond de l'église, le motard qu'ils avaient raté de peu. Il n'avait ni le type russe, ni le type indonésien. Il était le seul qu'elle pouvait reconnaître, et le seul dont Maline ne connaissait pas encore la nationalité. Maline adorait ce moment dans une enquête où, soudainement, le fil se démêlait. Elle se sentait parfaitement réveillée maintenant. Du pied, elle envoya valser hors du lit les épais volumes. Elle s'étira comme une chatte sur les draps de soie. Sa jambe nue s'échappa de sa robe. Du bout du pied, elle poussa latéralement sur la porte de la chambre pour l'ouvrir. Du salon, Olivier Levasseur ne vit d'abord de Maline qu'une jambe nue, impudique, puis la robe de la belle, ouverte. Septième et ultime salve.